les Blue Jays, pour l'emporter, c'est de tenir le match minimalement serré jusqu'à l'arrivée des releveurs des Dodgers. C'est à peu près ça qui est le plan. Là.
Ben oui. Moi, je vais te dire, si tu es capable de sortir les partants après, idéalement 5, mais mettons même 6 manches, on a une chance.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Grand Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balle. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. On est au cœur des séries. Le baseball canadien est en ébullition, mon cher Marc. On va commencer, première des choses, ce balado va porter sur les séries, l'analyse des deux séries de championnat et par la suite, on va s'arrêter sur la série mondiale qui nous attend, qui va commencer ce vendredi. Marc, Blue Jays contre Mariners. Écoute, Seattle a gagné un match à Toronto, malheureusement, c'est pas le bon, c'est samedi, le Kraken qui a battu les Maple Leafs. C'était pas la victoire que recherchaient les Mariners. Écoute, cette série-là, elle est excitante, on va le dire. Là, c'est une belle remontée de la part des Blue Jays de Toronto. Moi, ça me rappelle la série qu'ils avaient perdue en 85, Marc. Écoute, on avait gagné les deux premiers matchs. On a perdu, en plus, on avait perdu les deux derniers matchs à domicile. Sauf que là, on a résisté. Puis il y a quelques acteurs sur lesquels, moi, je veux revenir. Puis peut-être pas ceux auxquels on pense. Mais je pense que Hoffman a fait tout un boulot au cours de cette série-là. On a joué nos billes comme il faut lors des deux derniers matchs. Puis on a peut-être même eu le dessus. J'ose pas dire Schneider contre Wilson, parce qu'on sait comment le processus décisionnel peut parfois être. Ça, on pourra y revenir, Marc, parce que éventuellement. Mais je pense que de ce côté-là, les Blue Jays ont eu le meilleur, surtout dans le septième match.
Ouais, tu sais, Alain, lorsque tu es une équipe qui se rend en série mondiale ou une série de championnats se rend à la limite au match ultime, tu sais, puis que tu gagnes, c'est sûr que c'est pas l'affaire d'un ou seul joueur. C'est l'affaire d'équipe. Tu sais, tout le monde, je veux dire, regarde la contribution de Nathan Lucas, regarde la contribution de Ernie Clement, regarde la contribution. Je veux dire, on pourrait nommer à peu près l'équipe au complet là, qui ont aidé cette équipe-là à se rendre jusqu'au bout. Et Jeff Hoffman en fait partie. Hier, je vais te dire une chose, pas hier, mais évidemment dans le match ultime, et même Chris Bassett lançait des rapides à 95-96. Comprends-tu que l'adrénaline là, elle faisait son travail? Dans le cas d'Hoffman, qui avait effectué plus d'une trentaine de tirs la veille, était en plein contrôle. Il retire les trois frappeurs sur des prises, alors que, tu sais, Alain, tu regardes les statistiques, c'est un des releveurs de fin de match qui a accordé le plus de coups de circuit cette année. Il y a un écart d'un seul point. Ouais. Ça paraissait même pas. Tu avais l'impression que c'est sûr qu'il allait faire le travail. Fait que c'est. Je pense que tu as parlé de la série de 85 à domicile, mais je ne veux pas comparer les époques, mais l'ambiance qu'il y avait à Toronto hier, après le circuit, évidemment, de George Springer, tu as l'impression que les Mariners n'avaient plus rien. Là. C'était, ils ont subi ce coup de circuit-là, puis après ça, on sentait que c'était pratiquement terminé, alors qu'il y avait seulement un point d'écart à ce moment-là.
Oui. Ouais. Marc, il y a une décision moyenne que je n'ai pas comprise. Puis, alors que les Mariners, tu as deux gars sur les sentiers, frappeur numéro 7 qui s'en vient au bâton, qui est Crawford, le joueur de Rico, JP Crawford. Les frappeurs 8 et 9 suivent. Je sais que Crawford a eu une série horrible. Il n'a rien fait à l'attaque pendant cette série-là. Il y a eu plusieurs passagers, d'ailleurs, chez les Mariners au cours de cette série-là. On lui demande l'amorti. OK, je peux comprendre, il ne va pas bien. Mais si tu demandes l'amorti, tu vas me dire quelque chose, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé un frappeur suppléant pour les deux frappeurs suivants? Moi, c'est ça que j'ai... Tu sais, je parlais du fait que les Blue Jays avaient mieux joué leur bille. Ça, c'en est un exemple. Puis probablement, je pense, c'est là que le match s'est joué du côté des Mariners.
Écoute, oui, absolument. 100% d'accord avec toi dans cette situation-là. Les Mariners n'ont pas profité que Bieber n'était pas à 100%.
Oui.
Et Bieber, là, il y en avait du monde sur les buts. Là. Chaque manche, il y avait des coureurs sur les sentiers, mais on n'était pas capable de capitaliser. Mais celle-là, je dois t'avouer que je n'ai pas compris. Lorsque j'ai vu l'amorti, j'ai grimacé. Mm-hmm. Parce que c'est frappeur 8 et 9 et que Rivas n'a rien fait de la série. Et là, je m'attendais à des frappeurs suppléants. Tu sais, il faut que tu marques dans cette manche-là. Là. Tu as une occasion en or d'avoir des frappeurs, qui, tu sais, c'est 7 qui se rendent sur les sentiers, ou 5 et 6, peu importe. Là, il faut, tu sais, créer quelque chose avec ça. Va marquer un point avec ça. Puis, c'est pas été la seule décision, Alain. Il y en a, tu sais, de voir Rivas de retour au bâton en 9e, moi, pour moi, ça faisait pas de sens. Je pense pas qu'on a. Et on a critiqué beaucoup John Schneider là, à certains égards, sauf qu'il y avait une décision puis d'amener Brandon Little dans le match numéro 5. Mm-hmm. Tout ça, mais Dan Wilson, je suis pas mal convaincu qu'à Seattle ce matin, on se pose des questions sur quelques décisions là-dessus. Par contre, tu l'as mentionné, il y avait trop de passagers chez les Mariners dans cette série-là, même si c'était un match très, très serré dans le match 7, alors qu'une contribution constante d'à peu près tout le monde chez les Blue Jays de Toronto.
Écoute, oui, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. La défense a joué un gros rôle dans les deux derniers matchs. On a réussi un paquet de double jeux au cours du 6e match. Les Blue Jays, écoute, ont des décisions à prendre. Ça a l'air que Bichette va revenir, mais ça, on pourra en parler au cours du dernier bloc. Moi, je lève mon chapeau à Hoffman. Écoute, c'est une série, je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis sous contrat. Il a rempli sa mission. Le titre de joueur le plus utile, Marc, je mets très bémol. Tu sais, j'aime bien la statistique win probability added, puis il n'y a personne qui est proche de George Springer dans cette série-là. Malgré tout ce que Vlad peut avoir accompli, je ne sais pas ton opinion là-dessus, Marc, mais si on parle vraiment du joueur le plus utile, regarde bien, là, le circuit de Springer, là, il y a... serait-ce que le dernier match?
Moi, je vais te dire ce que j'ai pensé tout ça. Bon, Vlad, écoute, c'était des statistiques de jeux vidéo. Là. C'est quelque chose, c'est impressionnant. Je sais pas, quand on a nommé Vlad, bon, j'étais pas surpris parce qu'à un moment donné, il faut que t'en choisisses un.
Ouais.
Mais j'avais comme cette impression que Vlad allait se retourner puis qu'il allait demander à Springer, viens-t'en avec moi, là. Tu comprends? Je pensais à ça puis je me dis, c'est sûr qu'il va l'amener. Je veux dire, le circuit qu'il a, tu sais. Mais il l'a pas fait puis c'est pas parce qu'il y a pas pensé. Je veux dire, il y a de l'émotion. On a vu à quel point Vlad était très émotif hier. Mais tu sais, on l'aurait donné à George Springer, puis on aurait fait, oui. Alors, tu sais, je veux dire, puis tu as parlé d'Hoffman, puis tu as parlé de... Tu sais, il y a un paquet de joueurs là-dedans qui ont fait un travail remarquable, mais, tu sais, ça aurait été un ou l'autre, ça aurait été bien correct, mais, tu sais, Alain, les Blue Jays, pour la première fois, jouent sur la grande scène du baseball. Ce que je veux dire par là, c'est que jamais les Blue Jays sont présentés dans le baseball du dimanche soir, à la télévision nationale.
Ouais.
On est tout le temps...
Le samedi soir aussi, là, c'est à la télé nationale à Fox, on les voit jamais là.
On les voit jamais là. Alors que là, ben, on les voit. Puis qu'est-ce que tu entends parler des Blue Jays si tu es un Américain? Ben, c'est Vlad Guerrero Jr. Et là, Vlad Guerrero Jr. donne un spectacle.
Ouais.
Et je veux dire, c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait. Là. Alors, je dis pas que c'est ça, mais à quelque part, on est allé un peu là, avec la popularité là, de ce que Vlad a donné. Ouais. Ceci étant dit, il le mérite aussi. Mais dans le cas de Springer, c'est, je veux dire, surtout sur une jambe, là, effectivement, on a des petits flashs de Kurt Gibson un peu là, lorsque Springer a frappé cette balle-là. Là.
Je ne sais pas, Marc, si on l'a réveillé. On l'a attaqué avec des rapides tombantes à l'intérieur toute la soirée. Je ne sais pas si ça a réveillé l'ours qui dort. Remarque, il allait bien, Springer. C'est pas compliqué. Puis en série, il y a une vingtaine de circuits en série depuis ses débuts dans le baseball majeur qui remonte à Houston. On l'a attaqué à l'intérieur tout le long, puis là, on en a suspendu une qui était accessible. Moi, j'étais fortement impressionné. On a parlé de son leadership tout le long de l'année, Marc. On a dit que s'il y avait un joueur le plus utile, je sais que si tu avais à voter, c'est pour lui que tu voterais. Mais au-delà de sa performance, écoute, il a transporté cette équipe-là sur le plan émotif cette année.
Bon, puis Alain, rappelle-toi auquel entraînement. Il ne frappait pas et on avait des discussions à savoir est-ce qu'on avale son contrat là, finalement? Là? Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait ces discussions-là auquel entraînement sur George Springer.
Oui.
Et à 36 ans, il a complètement, je veux dire, c'était extraordinaire. Puis j'écoutais les entrevues hier de ses coéquipiers qui parlaient de Springer en disant, écoute, il est extraordinaire, il calme tout le monde, il est passé par là, il nous a vraiment guidés. Fait que c'est pas juste sur le terrain, Alain, que ça se passe aussi. Là. C'est à l'intérieur du vestiaire. Donc, c'est impressionnant de voir ça. Honnêtement, là, c'est le plus gros coup de circuit de ta carrière, même s'il en a frappé des très gros. Là, celui-là, là, d'amener ton équipe, les Blue Jays, d'amener ton équipe en série mondiale, c'est quelque chose, tu sais. Bon. On a un flash du coup de circuit de Joe Carter. Il y a eu le bat flip de Bautista. Mm-hmm. Il y a eu évidemment le coup de circuit d'Encarnacion. On dirait que les Blue Jays ont le don de frapper des coups de circuit spectaculaires. Mais là, on tirait de l'arrière. J'enlève rien à ce que Bautista a fait. C'est égalité à l'époque. Et là, tu tirais de l'arrière puis tu prends les devants en fin de match avec une claque comme ça. Là. Écoute, c'est tout rêve de joueur de baseball, c'est de faire ça. Tu sais, je veux dire. Puis là, Springer, il l'a fait. Puis, je veux dire, c'est ça. Alors, regarde, que Vlad ait eu le joueur le plus utile, ou le joueur par excellence, ou appelez-le comme vous voulez, c'est correct. C'est correct. Mais Springer, tout le monde le sait à l'intérieur de l'équipe que Springer aurait pu aussi avoir le 7-3.
Dernière chose, Marc, 71-40. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ce chiffre comparable. On dit quelquefois, ça peut amener des tendances. 71-40, c'est le nombre de retraits sur des prises par les frappeurs des Mariners comparativement au nombre de retraits sur des prises des Blue Jays de Toronto. Toi, je sais que ça te parle, cette statistique-là.
Ben, écoute, on va y revenir là, sur l'approche des Blue Jays face aux Dodgers. Mais ce qui est bien, c'est que chez les Jays, on n'a pas changé notre style. On met des balles en jeu, Alain. Donc, on évite les retraits sur des prises. Et en mettant la balle en jeu, on expose les défenses adverses. Ça a été le cas, là. T'sais, prends juste la course de Varsho hier, qui est allé au troisième. Alors qu'on a, on a récupéré une balle, sans trop d'intensité. On a profité de ça, là. Tu sais, lorsque Vlad est passé du deuxième au troisième sur une balle au sol que Rally n'a pas récupérée, on en a profité de ça. T'sais, on joue du bon baseball, on court bien les buts. Puis, je finis là-dessus, Alain, mais ce que j'aime, tu as parlé des retraits sur des prises, puis tu fais bien de le mentionner, mais ce que j'aime encore plus de cette série-là, puis de ce que les Blue Jays nous offrent, c'est l'importance de la défense et des courses sur les buts. On parle tout le temps qui va frapper, puis qui va frapper les coups de circuit, puis qui va être partant, puis ça va être qui en relève. Mais combien de fois on met l'accent sur la défense et sur les courses sur les buts? Tu sais, on dit, bon, oui, OK. Mais regarde l'importance d'avoir complété tous ces doubles jeux-là, puis de ne pas avoir donné des retraits additionnels aux Mariners. Puis regarde la façon dont on a couru les buts, ce qui a créé des occasions de marquer qui ont fait la différence. Là, je suis content de voir que tous ces aspects-là du baseball sont un peu plus mis en évidence, alors que c'est comme ça que tu vas finir par gagner des championnats. Puis là, les Blue Jays viennent de le prouver.
Oui. On aura l'occasion de reparler des Blue Jays un peu plus tard, évidemment en prévision de la Série mondiale. La question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville, c'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On s'entend, les Dodgers sont favoris, largement favoris pour remporter la Série mondiale. Croyez-vous aux chances des Blue Jays de Toronto dans cette série qui va s'amorcer vendredi à Toronto? Vous pouvez vous adresser directement sur notre page Facebook, facebook.com/comptecompletbalado. Et pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet, comptecompletbalado.com.
Alain, je vais prendre quelques instants pour remercier notre partenaire Plan de Match. Plan de Match, bien là, évidemment, avec l'automne et l'hiver qui s'en vient, bien, cage de frappeur intérieur, tout pour le baseball. Je me fais souvent parler de mes casquettes. La casquette, évidemment, de notre balado. Il y a aussi la casquette Plan de Match. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Hey, t'as des belles casquettes ». Ils sont disponibles à Plan de Match. Allez sur leur boutique en ligne, boutiqueplanmatch.com. Deux adresses, une à Boucherville, l'autre à Jonquière. On les remercie de leur support, évidemment, pour notre balado. Et si vous voulez en savoir plus, justement, sur Compte Complet, bien, visitez notre site internet, comptecomplet.com.
Dodgers, Brewers. Les Brewers ont terminé la saison avec le plus grand nombre de victoires dans le baseball majeur. On n'a pas été de taille, Marc. C'est pas compliqué, là. C'est deux équipes dans deux ligues différentes qu'on a semblé voir. Les lanceurs des Dodgers ont complètement dominé cette série-là. Et comme dessert, ben Shohei Ohtani nous a offert un spectacle unique dans le dernier match. C'est un peu triste pour les Brewers qui méritaient probablement un peu mieux. Mais disons là, les Dodgers ont le personnel qu'ils voulaient quand la saison a commencé. Et tout le monde a produit à la hauteur des attentes. C'est pas compliqué. Les Dodgers avaient la meilleure équipe quand l'année a commencé. Ils ont joué comme tel pendant cette série.
Oui, bien là, on a exposé, tu sais, dans le fond, Alain, tout ce que les Dodgers peuvent faire sur un terrain de balle. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est de valeur pour Milwaukee. Parce que tu l'as dit, Alain, très, très belle saison contre toute attente. Personne ne les voyait là. 97 victoires en jouant du baseball inspirant, en jouant du baseball en gagnant de toutes sortes de manières, la course sur les buts. Bon, on en a parlé amplement. Mais regarde, les Dodgers sont sur une autre planète lorsque vient le temps. Tu l'as dit, lorsque tout le monde est en santé. Et c'est pour ça qu'ils vont être largement favoris aussi contre les Jays. On va y revenir. Mais, tu sais, Alain, il y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Puis pourtant, il y en avait en saison régulière des failles chez les Dodgers.
Ouais.
Puis là, évidemment, là, je parle sur les frappeurs. Rappelle-toi, on a parlé souvent des frappeurs 7, 8, 9 qui ont à peu près pas produit de l'année. Et qui la produisent en série. La relève qui était pas si mal en saison, mais whoops, là, en série, ça venait peut-être un problème. Mais regarde, avec tous les joueurs qui sont revenus, les lanceurs partants qui reviennent, ben, soudainement, on se retrouve avec un nombre de lanceurs importants. On les a mis en relève. Alors, ça a comme enlevé ce petit maillon faible-là de l'équipe. C'est impressionnant. Honnêtement, la machine des Dodgers est bien huilée. C'est très impressionnant, mais... Les Brewers n'étaient juste pas de taille, Alain. Je veux rien enlever, évidemment, à la qualité du travail des lanceurs. Mais tu sais, des gars comme Yelich, on n'a rien fait. Même Turang, je m'attendais que ça soit vraiment, tu sais, bon. Ça n'a pas frappé, Alain. Ça n'a juste pas frappé suffisamment pour créer un peu d'espoir ou créer un peu de pression sur les Dodgers. Les Dodgers n'ont jamais senti cette pression-là. Ils ont été tout seuls tout au long de la série.
Dans le fond, Pat Murphy n'a jamais eu l'occasion de tenter quoi que ce soit. Il n'y avait personne sur les sentiers. La première règle, Marc, c'est de se rendre sur les buts si tu veux tenter quelque chose. Puis on n'a jamais été capable de le faire.
Non, exact. On l'a étouffé. Puis, tu sais, je veux dire, tu regardes, là, tu commences la série, puis ton lanceur a un match presque parfait. Il affronte le minimum après 8 manches. Puis le deuxième qui suit lance un match complet. Tu sais, je veux dire, on aurait pu. T'sais, je veux dire, on aurait pu déjà dire que ça va être une courte série. Non, c'est impressionnant. Moi, j'ai plus l'impression qu'il faut saluer le travail des Dodgers parce que, tu sais, Alain, t'as beau payer cher puis donner des gros contrats, mais il faut que tu ailles faire le travail sur le terrain. Là. Et après ça, parce que Ohtani, ce qu'on a vu nos propres yeux, Alain, c'est. Je veux dire, il n'y a même pas de mots pour décrire ça.
Oui.
Tu sais, on parle des trois circuits de Reggie Jackson. Contre les Dodgers à la fin des années 70, puis on se dit, hey, ça, c'était un moment, là. Imagine-toi si Reggie en avait retiré 10 sur des prises. Hein. c'est complètement là, fascinant ce que Ohtani peut faire. Moi, j'ai encore l'image en tête de sa première manche, retire les trois frappeurs sur des prises, s'en va, rentre même pas dans l'abri, là. Il reste en haut de l'abri, enlève sa casquette, met son casque, met ses protecteurs. S'en va au bâton, puis en frappe une à 430 pieds sur son premier circuit. Puis là, après ça, il retourne au monticule, il est dominant, puis il revient au bâton, puis en frappe une à 470. Mais qui fait ça? Tu sais, c'est extraordinaire.
Oui, c'est un moment historique. Ceci dit, écoute, du côté des Brewers, on n'a pas frappé, puis on a beau blâmer. Tu sais, la façon dont on a utilisé nos lanceurs, on était dépourvus un peu. Quintana a passé le dernier mois pratiquement sur la liste des joueurs blessés. Woodruff n'était plus là. Est-ce qu'on aurait pu commencer les matchs avec nos partants qui nous restaient? On avait quand même quelques options. Chad Patrick, qui était très, très bon pendant la saison et qui était très bon pendant les séries. Mizrowski, la même chose. Mais tu sais, on parle de ça. Ça revient... Ça revient au fait qu'on n'a pas frappé, Marc. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, t'auras beau brasser les dés de la façon que tu voudras chez des lanceurs. Un point par match. Tu n'iras pas loin avec ça. Là.
Non, puis Alain, l'équipe était bien bâtie en saison régulière. Mais tu regardes l'importance d'avoir un peu de puissance. Je parle pas qu'il faut que tout le monde, les 9 frappeurs, frappent 20 circuits et plus. C'est pas ça que je dis, mais il faut que de temps en temps, t'en frappes une de l'autre côté. Tu sais, qui te ramène, bon, on a vu dans la série face à les Jays et les Mariners, entre autres choses, mais il faut que de temps en temps, tu sois capable de frapper la longue balle. Puis on l'a fait dans la série face aux Cubs, rappelle-toi, on a marqué, c'était même pas nécessairement dans les plans, mais bon. Alors, on n'a juste pas permis ça du côté. Les Dodgers n'ont pas donné l'occasion pratiquement aux Mariners, pas aux Mariners, mais aux Brewers de frapper la longue balle. Alors, moi, je trouve que c'est un alignement qui manquait un petit peu de pop, là, un petit peu de puissance. Et Chorio qui jouait sur une jambe, tu sais, il n'y avait rien qui était à l'avantage de Milwaukee là, dans cette série-là.
Oui, puis tu sais, la principale menace côté puissance, ça revenait à Andrew Vaughn. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de mauvais élan dans cette série-là, Marc. Mais quand tu n'as personne sur les buts, c'est correct, on va te lancer des prises, puis tu sais, tu ne peux pas frapper un grand chelem s'il n'y a personne sur les buts.
Ben, écoute, il y a eu quelques petites occasions ici et là, mais Alain, c'est sur le long terme, là, c'est ça. Mais ça n'enlève rien, très, très belle saison. Je pense que les gens de Milwaukee sont quand même très heureux de s'être rendus là, puis c'est juste que d'affronter les Dodgers en 2025, c'est un énorme défi, comme on a pu le voir.
Oui, puis ça va en être un pour les Blue Jays de Toronto. Juste pour te donner une idée, Marc, les chiffres à l'attaque, là, après 4 matchs chez les Brewers de Milwaukee, on a frappé cumulativement pour 118 avec un MPP à 3,84.
Alors, tu sais, on a beau dire que les lanceurs sont bons, des Dodgers, puis ils ont été très, très bons, mais tu sais, il y a une combinaison, Alain. C'est que on n'a pas frappé, puis on a affronté. On n'était pas dans les... C'est malheureusement, là, c'était pas... on n'était pas dans un moment de l'année où l'attaque fonctionnait bien. Puis là, tu combines ça, évidemment, avec la qualité des lanceurs des Dodgers. Ça donne des chiffres, là, ça.
Ouais. Bon, c'est terminé, mais bravo aux Brewers pour cette saison. C'est temps de la carte de la semaine. Présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Notre dévolu est porté aujourd'hui sur Joe Morgan, la carte 1975. C'est la première de ces 2 années où il a remporté le titre de joueur le plus utile à son équipe. C'est la carte numéro 180 de la série OPG. Je vous souligne que pour ceux qui écoutent le balado, la version visuelle sera présentée au cours des prochaines heures plus tard cette semaine. On fait mention que Morgan faisait partie d'équipe d'étoiles de la saison précédente. C'était juste le début. Et un petit bémol, les 2 années 75-76, le joueur le plus utile à son équipe, Marc, il a mené l'équipe pour le WAR à ses 2 premières années à Cincinnati. Ça, c'était les 2 années 72-73. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Il jouait pour les Astros de Houston. Tu as vu l'Astrodome, Marc? C'est un éteignoir offensif, l'Astrodome. Fait que là, tu passes de Houston, de l'Astrodome au Riverfront Stadium, là où il était bien appuyé, n'est-ce pas? Donc, vous voyez pas mal de tirs. Marc, écoute, 4 années sur 5, il a mené la Ligue nationale pour le WAR. C'est tout à fait exceptionnel dans le cas de Joe Morgan. Il n'était pas grand, déployait une puissance qui était absolument extraordinaire, a fini sa carrière avec 1865 buts sur balle contre à peine 1000 retraits sur des prises. C'est une autre époque, on s'entend là-dessus. Et ce qui est quand même paradoxal dans le cas de Joe Morgan, puis tu vas t'en rappeler, Marc, quand Moneyball est arrivé, c'est un des joueurs dont la valeur a été le plus appréciée. Il y a eu Tim Raines, mais Joe Morgan a été un de ces joueurs-là, et pourtant un des plus critiques, les plus virulents de Moneyball. C'était qui comme analyste? C'était Joe Morgan.
Ça me surprenait beaucoup, là, compte tenu du joueur qu'il était, compte tenu de la valeur que ça pouvait lui donner d'être un joueur patient comme ça. Mais moi, je retiens, écoute, sa carrière est extraordinaire. 5 pieds, 7 pouces, 160 livres.
C'est
il ne même pas en ce moment. Évidemment, oui, là, mais tu comprends qu'il serait dans une organisation puis il faudrait qu'il passe par toutes les étapes pour prouver que... c'est ça. Mais je veux dire, tu l'as dit, il avait une puissance pure, là, assez... c'était impressionnant là, ce qu'il pouvait générer comme puissance avec un physique de la sorte. Et il a été, un très bon analyste par la suite. Là, dans... C'est un gars qui avait quand même une bonne tête de baseball, là, qui était capable d'expliquer ce qui se passait. Là.
Écoute, tu peux pas avoir une carrière comme celle-là sans savoir ce que tu faisais au marbre. Puis moi, ce qui m'étonnait, tu sais, quand tu es jeune, tu regardes des statistiques, puis je regardais, par exemple, un gars qui a joué à Cincinnati dans les années 60, qui s'appelait Vada Pinson. Là, je regardais ça, Marc, 600 présences au bâton, 200 coups sûrs, moyenne de 300, etc. Puis là, je voyais Joe Morgan, qui jouait le même nombre de matchs, mais qui avait même pas 500 présences au bâton, tu sais, mais qui frappait pour 300, il y avait 100 points produits, près de 30 circuits, tu sais, c'était... Comment ça fait qu'il ne vient pas au bâton aussi souvent que Vada Pinson? Mais maintenant, on s'est aperçu que parce que Pinson recevait à peu près pas de but sur balle, alors que Joe Morgan en recevait une tonne. Tu comprends? On a ajusté, à un moment donné, nos connaissances en fonction de ce qui était vraiment payant. Et Joe Morgan, Marc, a été, disons-le, c'était le dernier morceau de la grosse machine rouge des années 70. On avait déjà une très, très bonne équipe. On avait Pete Rose, on avait Johnny Bench, Tony Perez était déjà avec cette équipe-là. Ken Griffey allait s'ajouter éventuellement par la suite. Puis là, quand Joe Morgan est arrivé, regarde là, ça a complété cette machine-là. Une des machines offensives, en tout cas, je dis toujours qu'on a tendance à idéaliser un petit peu nos souvenirs de jeunesse. Il n'y avait pas vraiment de faiblesse dans cette équipe-là, sauf quand le lanceur arrivait au bâton, puis il espérait qu'il n'y avait personne sur les buts. Bref, Joe Morgan, Marc, c'était un des meilleurs. Il a fini avec, il n'y en a pas beaucoup, il a fini avec un WAR cumulatif au cours de sa carrière au-dessus de 100. Ils sont pas nombreux, puis lui, c'en était un.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
C'est le temps d'encourager les jeunes à la lecture avec les livres pondus par notre ami Bob McDuff. Évidemment, c'est la série Baseball Bob. Et il y en a 4 livres qui ont été distribués jusqu'ici, dont un en début d'année, dont le titre est Baseball Bob et le chant des tournesols. Je vous invite à aller sur le site internet de notre ami Bob sur baseballbob.ca. Évidemment, www avant le baseballbob.ca. Notre profil de la semaine, c'est un joueur des Blue Jays de Toronto et on s'est arrêté sur Addison Barger. Addison Barger qui, j'espère, Marc, sera le troisième but régulier l'année prochaine. Ça, c'est un choix. On pourra revenir sur les Blue Jays l'année prochaine. C'est un choix de sixième ronde de l'année 2018. Et je regardais, Marc, les sixièmes rondes de cette année-là. Il y a quelques équipes qui ont frappé le gros lot. Drew Rasmussen est un choix de sixième ronde de cette même année. Et parmi les autres, il y a Addison Barger, évidemment. Lawrence Butler, des Aces d'Oakland, des Aces de Sacramento. On n'a pas le droit de dire Sacramento, je vais le dire quand même. Donc, il y a quand même des petits bijoux, surtout dans les 10 premières rondes. Addison Barger fait partie de ceux-là. Les Blue Jays ont réussi à le convaincre de signer un contrat, même s'il avait une offre de l'Université de la Floride. C'est un gars qui a grandi très jeune âge dans l'État de Washington. Sa famille a déménagé par la suite en Floride. Il a joué au baseball depuis aussi longtemps. Je pense qu'il marche ou quelque chose comme ça. Son père était très impliqué dans le baseball. Ses frères aussi ont joué, mais Addison, visiblement, était celui qui était le plus talentueux. Marc, c'est une progression qui peut surprendre dans le cas d'Addison Barger. T'es pas considéré comme le prospect de premier plan jusqu'à tardivement. Là, c'est après la COVID, en fait, qu'il a écarquillé les yeux. Il a frappé, tu sais, Marc, c'est pas facile de frapper dans la Ligue de la Floride, 18 coups de circuit avec Dunedin en 91 matchs. Mais c'était pas lui qui était le prospect numéro 1. C'était Orelvis Martinez, qui a été pendant quelques années, pendant les 2-3 dernières années, le prospect numéro 1. Martinez qui vient d'avoir une saison extrêmement difficile. Le Barger l'a devancé. Et Marc, cette année, il n'a pas commencé l'année avec les Blue Jays. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent. Il a eu un très gros camp d'entraînement. On l'a rappelé. Ça n'a pas été facile au début à l'attaque. Marc, ce qui a fait en sorte, il y a deux choses qui sont arrivées. David Schneider a eu des problèmes à l'attaque en début de saison. Puis l'autre, rappelle-toi son match avec 3 assistances du champ extérieur. Ça l'a mis sur la carte. Il n'est pas retourné dans les mineurs après, même s'il semblait être le plan. Tu vois, il a profité de l'occasion depuis ce temps-là, Marc. C'était un des bons. Il a connu une bonne série contre Seattle. Il a obtenu de gros coups sûrs. C'est une belle évolution, moi, je trouve, celle d'Addison Barger depuis le début de sa carrière.
Moi, Alain, j'avais écrit une chronique au mois de mai sur le RDS.ca, alors qu'il y avait un seul circuit. Rappelle-toi, tu viens de parler du fait qu'il n'avait pas commencé l'année et tout ça.
Oui.
Puis, je voyais quelque chose. Tu sais, j'aimais la puissance qu'il générait. Je trouvais que son taux de contact était plus élevé. Les statistiques ne le démontraient pas encore, mais j'avais écrit disant les Blue Jays ont peut-être un joueur clé entre les mains sans trop le savoir encore parce que c'est sûr que ça prend des résultats.
Ouais.
Et j'aimais la qualité de ses présences au bâton. Il y avait des choses que j'aimais beaucoup. Fait que je m'étais lancé un petit peu dans le vide en disant moi, j'aime ce que je vois, je pense que. Tu sais, je suis content de savoir que je me suis pas trompé à ce niveau-là.
Ouais.
Remarque, je me suis trompé bien souvent auparavant. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je voyais quelque chose. Puis tu sais, Alain, tu parles de jouer au troisième, tu as raison. Il y a le physique d'un troisième but, il y a la puissance d'un troisième but. Mais ton bras au champ droit, là. Je comprends que c'est plus difficile de trouver un bon troisième but qu'un voltigeur de droite, mais c'est impressionnant, là. Tu sais, il y a un bras canon, là. Je pense que là, les gens là, ont tous été témoins de ça. Puis, son ajustement dans le match, tu sais, il frappait un petit peu moins en début de série face aux Mariners. C'était un petit peu plus difficile. Et là, en pleine série, il fait un ajustement. Il décide de lever ses mains davantage. Tu sais, Alain, travailler sur ta mécanique en pleine série de championnat, c'est pas toujours évident. Tony Gwynn disait toujours « trust the process ». Tu sais, fais confiance à ton élan, mais tu sais, c'est pas le temps de jouer avec là, dans une série comme ça. Puis pourtant, lui, il l'a fait. Il a levé ses mains, puis de façon assez considérable. Je parle pas juste qu'il a levé ses mains de là à là. Il les a vraiment levées davantage. Et ça lui a redonné, donc, cette possibilité de faire des meilleurs contacts. Puis on a vu le résultat avec une couple de balles frappées d'aplomb, dont un coup de circuit important dans le match numéro 6. Fait que c'est les Blue Jays ont vraiment un gars solide. Il est en train de démontrer que c'est pas trop gros pour lui. Les séries de championnat, il a pris une bonne présence au bâton. Il était là. C'est un beau joueur d'avenir maintenant. C'est un joueur qui a l'air d'un joueur de balle. Et avec la puissance qu'il a puis le bras qu'il a, ben moi, je pense qu'il va avoir une très belle carrière.
Mm-hmm. Ben, chapeau. Écoute, comme je dis, ça n'a pas été facile d'être retourné dans le baseball mineur après le camp d'entraînement qu'il a eu. Puis là, ben, il est devenu un rouage important de la formation des Blue Jays. Les Blue Jays qui sont en série mondiale. Marc, c'est le temps de parler de ce qui s'en vient contre les Dodgers de Los Angeles. Je le mentionnais ben, lors de la question, évidemment, de la semaine. Les Dodgers, largement favoris. Ils ont perdu un seul match depuis le début des séries. C'était contre les Phillies de Philadelphie. On a disposé des Reds, c'était comme ça. Même chose avec les Brewers. C'est impressionnant. T'as l'impression que c'est un rouleau compresseur là, qui attend les Blue Jays de Toronto.
Oui. Mais Alain, ça joue sur le terrain. Puis tu parles des Dodgers. Moi, je me rappelle de 88. Les Dodgers, c'est pas favori là, contre les A's, là, Alain.
Oui.
Et ça joue sur le terrain. Puis on m'a posé la question à un moment donné, entre les Mariners et les Jays, laquelle des équipes pourrait donner un petit peu plus de fil à retordre aux Dodgers. Bon, la force des Dodgers, c'est quoi, Alain? Les lanceurs partants, là, clairement, avec Snell, Yamamoto, on donne rien. On donne rien. Ouais. Et là, on affronte une équipe qui met des balles en jeu et pas retirée sur des prises autant, alors que les Mariners, tu l'as dit, là, on a beaucoup d'élan dans le vide. Je pense que les Mariners auraient vraiment tombé dans la force des Dodgers à ce moment-là. Mais les Jays peuvent survivre là-dedans. C'est l'impression que j'ai, là. Je te dis pas que les Blue Jays vont gagner la Série mondiale. Je te dis que on va quand même offrir aux Dodgers une bonne résistance. Mais pour ce faire, ben là, on va avoir le retour de Beau Bichette. Et tu sais, on a beau me dire, Bichette, il a pas joué beaucoup. J'aime beaucoup Connor Falefa, là, mais si tu mets Bichette à la place, on a une meilleure équipe, là, du côté des Blue Jays de Toronto. Là, la question est de savoir, est-ce qu'il peut vraiment jouer en défense? Parce que s'il ne peut pas jouer en défense, tu ne mets pas frappeur de choix. C'est le poste de George Springer.
Ouais.
Springer va être frappeur de choix dans la prochaine série. Alors, si Bichette est rétabli, peut jouer en défense, probablement qu'il va aller à la réco, parce que passer de la réco au deuxième en série mondiale, lorsque tu n'as pas joué là beaucoup, je ne suis pas certain que ce serait la bonne décision.
Ouais.
Personnellement, j'aime mieux voir Jiménez à la réco, parce que je trouve qu'il est très, très bon à ce niveau-là. Mais j'accepterais de voir Jiménez au deuxième, Bichette de retour à l'arrêt court. Oui, tu t'enlèves un peu d'efficacité en défense, mais Alain, c'est une menace de plus en attaque, puis tu vas en avoir besoin contre les Dodgers de Los Angeles. Fait que ce que je veux dire, c'est que je pense que le style des Blue Jays peut permettre une bonne série mondiale face aux Dodgers. Et évidemment, les Dodgers sont favoris là, sur papier. Tu ne peux pas aller contre les Dodgers. Mais je pense que les Blue Jays vont offrir quand même une bonne résistance. C'est ce que j'ai vu de Gausman en série même. Tu sais, là, il va voir, bon, qui va lancer? Est-ce que c'est le match numéro 4? Est-ce que ça va être Bassett? Est-ce que ça va être Chris, c'est-à-dire Max Scherzer? Il va quand même avoir des éléments importants. On va pouvoir mettre un couple de lanceurs gauchers pour affronter les Otani et Freeman de ce monde. On n'aura pas le choix. Il va falloir s'équiper comme ça. On va avoir un Davis Snyder plus souvent dans la formation parce qu'il y a un Blake Snell qui lance du côté des Dodgers. Fait que, ça pour dire que je pense que les Blue Jays sont capables d'offrir une résistance qui va nous donner une très belle série mondiale, selon moi.
Écoute, avec le retour éventuel de Bichette, si je comprends bien, c'est Connor Farlefa qui est le joueur que tu retires. Moi, je regardais les deux possibilités, c'était peut-être lui et Schneider. Compte tenu de la présence de Snell, Vesia et Banda, Schneider, son poste est comme scellé avec les Blue Jays.
Ben écoute, tu sais, je veux dire, on verra, mais je sais que Connor Farlefa offre quand même des options intéressantes, Alain, mais avec le retour de Beau Bichette, moi, je garderais Schneider, personnellement, là, je garderais Schneider pour ce qu'il a donné en attaque. Lui aussi est versatile, lui aussi peut jouer à multiples positions. Là. Moi, j'irais plus de ce côté-là.
Oui. Maintenant, les lanceurs partant, il n'y aura pas d'ouvreurs. Les Brewers sont allés avec des ouvreurs, sauf Peralta. Il n'y aura pas d'ouvreurs avec les Blue Jays de Toronto. Moi, je m'attends à ce que Yes Savage commence le match numéro 2. Le premier, est-ce que ça va être Scherzer? Moi, c'est ce à quoi je m'attends, personnellement. Je ne sais pas, Marc, compte tenu que Gausman a lancé dans le match, tu comprends, le match numéro 7, Bassett également, c'est Bieber qui a commencé le match. Donc, comme l'impression que ça va être Scherzer, Yes Savage dans les deux premiers matchs.
Ouais, écoute, dans le cas de Gausman, ça a été une seule manche. Puis, on le sait, souvent, les départs, Alain, tu lances. Est-ce que Gausman va être prêt pour le match numéro 1? On verra bien. Ça va être une belle décision à prendre. Je pense qu'on va la prendre seulement jeudi. Là. On va prendre le temps de se relever de la fête d'hier. Pas d'hier, mais de lundi pour les Blue Jays de Toronto. Mm-hmm. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des options. Mm-hmm. Je ne dis pas que c'est parfait, là, parce que si tu me dis que ça va être Max Scherzer contre Blake Snell, ben c'est sûr qu'il va y avoir un avantage Dodgers. Si tu me dis que ça va être Yes Savage, aussi bon peut-il être? T'sais, s'il affronte Yamamoto, par exemple, dans le match 2, ben c'est sûr qu'il y a un avantage du côté des Dodgers. Alors, on ferait ça à chaque lanceur, mais l'avantage est quand même pas aussi net que l'on voyait, par exemple, face aux Brewers de Milwaukee.
En terminant, Marc, les Blue Jays, pour l'emporter, c'est de tenir le match minimalement serré jusqu'à l'arrivée des releveurs des Dodgers. C'est à peu près ça qui est le plan. Là.
Ben oui. Moi, je vais te dire, si tu es capable de sortir les partants après, c'est idéalement 5, mais mettons même 6 manches, on a une chance. On a une chance. Puis, faut juste pas changer notre style, Alain. Faut être agressif au bâton. Faut mettre des balles en jeu. On va tester la défense. Une très bonne défense, celle des Dodgers, mais on peut la tester. On peut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a de l'expérience quand même là, chez les Blue Jays. C'est Springer qui revient. Puis Springer, il a connu du succès contre les Dodgers en série. On s'en rappellera. Vlad qui est sur une autre planète actuellement. Puis Bichette qui va vouloir aussi s'amener en série mondiale probablement là avec. Il a vu ses coéquipiers amener son équipe là. Ben il va vouloir en donner. Fait que tu sais, il va avoir quelque chose d'intéressant. Là. Je pense. Je m'attends vraiment à une série mondiale. Alain, je vois pas les Dodgers remporter ça en 4. Comme ils l'ont fait là, contre Milwaukee. Je pense que les Blue Jays peuvent résister. Je vous dis pas que ça va aller en tête, mais je pense qu'on va avoir des matchs serrés qui vont nous permettre là, d'apprécier toute la beauté de ce sport-là. Là.
En combien, Marc?
Ouais, là, écoute.
Ta moyenne est bonne depuis le début des séries, quand même.
Hey, écoute, je suis 7 en 8 en passant.
Bon, peux-tu me donner un... Ben oui. Fait que quand même.
Écoute, Alain, tu sais, je vais dire, tu sais, je tends vers le 5, mais je vais aller en 6. Je vais y aller en 6, mais je pense que les Dodgers ont, tu sais, je veux dire, on a beau regarder ça de n'importe quel angle, là, il va falloir qu'ils l'échappent solide là, si jamais les Blue Jays n'en pas.
Oui, et j'y vais en 5. Du côté des Dodgers, ils ont montré énormément de profondeur, Marc. Les deux gauchers vont bien. Écoute, mais ce sont des frappeurs droitiers qu'on devra quand même maîtriser chez les Dodgers à Los Angeles. Là, je parle évidemment, tu as parlé de principalement Guerrero et Springer. De là, l'importance peut-être de Lucas et de Barger dans cette série-là. Va falloir que. Bon, j'ajouterais Varsho. Il y a un équilibre qui est quand même pas mauvais de ce côté-là. C'est juste que le bas de la formation est quand même moins redoutable que celui des Dodgers. Mais je vois quand même pour les Dodgers en 5. Ils connaissent le tabac. Une seule défaite depuis le début des séries. Est-ce que le congé va les ralentir? Marc, on l'a bien vu depuis cette année particulièrement. Les équipes semblent avoir maîtrisé ce congé davantage. Les Blue Jays, notamment, je pense qu'en ont profité beaucoup. Donc, voilà, pour cette série mondiale, j'y vais avec les Dodgers en 5. Mais voilà ce qui complète ce balado. Merci, Marc. On va évidemment regarder ce qui se passe du côté de Toronto au cours des deux prochains matchs. Par la suite, à Los Angeles, 2-3-2, c'est la formule, évidemment, des 4-7 en séries éliminatoires. J'espère que ce balado vous a plu. Merci, Marc. Merci à Martin Villeneuve pour son travail à la technique. Alain Huzreau avec vous. On se souhaite une bonne série mondiale. Profitez-en.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.